Elle est ordinaire et supportable lorsqu'elle est modérée, mais elle peut devenir obsessionnelle et maladive dans certains cas. La jalousie est un sentiment à géométrie variable, du normal au pathologique. Elle peut se manifester de différentes manières et empoisonner la vie du jaloux comme celle de ses victimes. Le dossier de la tête au carré lui est consacré, donc pour comprendre ce qui donne naissance à la jalousie. Et puis tant qu'à faire, comment essayer de s'en libérer? J'attendais maintenant vos messages et vos témoignages. Franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. Souvenir va rimer avec dormir dans la une de la science aujourd'hui. Axel Villard, bonjour.
Bonjour Mathieu. Oui, pour la première fois, des chercheurs français manipulent le processus de mémorisation qui a lieu pendant le sommeil. Dialogue très fin entre l'hippocampe et le cortex, aujourd'hui à la une de la science.
Et c'est Céline Nila qui réalise notre tête au carré, préparée par Lucie Sarfati avec Dylan Beiner.
La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
La jalousie donc dans quelques minutes au cœur de notre dossier avec mes invités, le psychiatre Bernard Gébérovitch et le sociologue François de Saint-Gly. Bonjour.
Bonjour.
Bernard Gébérovitch, commençons directement par l'épilogue de notre dossier. La jalousie, ça peut se soigner ou pas?
La jalousie excessive, ça peut se soigner, non pas se guérir, mais s'atténuer. Et donc, on peut ensuite vivre avec une jalousie intermittente.
Bon, ben on attend vos conseils avec impatience. François de Saint-Gly, la jalousie, ça fait partie du fonctionnement normal du couple, selon vous?
En sociologie, non. Parce qu'en fait, on n'en parle jamais.
Oui, alors c'est ça, oui. C'est pas le bon exemple.
C'est pas le bon exemple. Donc ça doit être... Non, mais tant qu'à faire, je pense que je vais écrire un livre si je commence à être jaloux.
Ah, voilà.
En 21 jours, peut-être je vais y arriver.
Parce qu'il faut que vous le soyez pour, en tant que sociologue, écrire un ouvrage sur la question.
Mais clairement, je n'ai... Pourtant, j'ai des centaines et des centaines d'entretiens de gens en couple.
Oui.
Mais c'est comme quoi on produit aussi ce qu'on veut d'une certaine façon. Jamais entendu la jalousie.
Ah ben dis donc, ça c'est étonnant alors.
Oui.
Bon, eh ben on en parle avec vous dans un instant.
On et
avec
pas les mêmes gens.
Messages des auditeurs sûrement. Franceinter.fr et le mot-clé l'attaque pour nous rejoindre. Comment se forme la mémoire à long terme dans notre cerveau? Eh bien, des chercheurs commencent tout juste à comprendre ce mécanisme et c'est aujourd'hui à la une de la science.
Le cerveau, élément essentiel du cœur humain, est constitué de 7 départements. Renseignements et curiosités collectent des informations pour les décortiquer. Ces informations sont classées par la mémoire, toujours partisan du moindre effort.
Allez, en ligne avec nous pour en parler, Michael Zugaro, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur au CNRS et vous venez de démontrer avec votre équipe du Centre interdisciplinaire de recherche en biologie du Collège de France que c'est donc un dialogue lent et bien précis entre plusieurs zones du cerveau pendant le sommeil qui permet le stockage à long terme des souvenirs. Alors, depuis longtemps, on sait que bien dormir est bon pour la mémoire. Vos expériences viennent au fond confirmer cet adage?
Alors, oui, il s'agit d'un travail que nous avons fait avec Nicolas Mingret, Gabriel Girardot, Ralitza Todorova et Marie Gouttière. Et nous avons démontré, pour la première fois, une hypothèse fondatrice qu'on retrouve dans toutes les grandes théories de la mémoire depuis les années 50, selon laquelle la mémorisation à long terme fait intervenir un échange d'informations entre deux zones du cerveau, vous l'avez dit, l'hippocampe et le cortex.
Et c'est un mécanisme que vous avez découvert, on l'avoue, chez le rat. Il s'agit de plusieurs expériences que vous avez menées. Expliquez-nous comment vous avez fait.
Donc là, c'est la preuve expérimentale, au fond, de ce qu'on connaissait déjà.
C'était une théorie, une hypothèse, mais il manquait la preuve directe. Et c'est ça que nous avons apporté. Donc comment nous l'avons montré? Nous avons entraîné des rats à retenir la position de deux objets dans une pièce. Et le lendemain, nous déplacions un objet et les rats devaient trouver lequel. Alors, si les rats n'avaient que 3 minutes d'exploration le premier jour, nous n'observions pendant le sommeil que très peu de couplage entre l'hippocampe et le cortex. Et en plus, le lendemain, les rats ne parvenaient pas à trouver l'objet déplacé. En revanche, si les rats avaient 20 minutes d'exploration, non seulement on observait des couplages entre l'hippocampe et le cortex pendant le sommeil, mais en plus, les rats se souvenaient le lendemain. Bon, là, pour l'instant, il s'agit juste de corrélation. Il nous restait à apporter la preuve. Alors, nous avons travaillé sur les rats qui oubliaient d'un jour à l'autre, et nous avons mis au point un système qui nous permettait de coupler hippocampe et cortex à volonté pendant leur sommeil.
Et ce système, c'est quoi exactement alors?
Alors, on détectait en ligne, en temps réel, si vous voulez, des rythmes qu'on observe dans l'hippocampe, qu'on appelle des ondulations, des rythmes très rapides, à environ 200 Hz. Et on était capable de déclencher à volonté une réponse du cortex. Enfin, en quelque sorte, de dire au cortex, écoute ce que dit l'hippocampe. Ce qui ne se produisait pas spontanément chez ces rats-là, puisqu'ils n'avaient que 3 minutes pour explorer l'environnement et qu'ils oubliaient. Et une fois qu'on appliquait ce traitement pendant le sommeil, le lendemain, là, les rats réussissaient parfaitement le test.
Ça veut dire que vous avez boosté artificiellement la mémorisation de ces rats grâce à votre dispositif?
Tout à fait. C'est-à-dire qu'on a des rats qui, le lendemain, oubliaient complètement ce qu'ils avaient vu la veille, hein, dans tous les cas où on l'a testé. Et avec ce protocole-là, en couplant artificiellement à volonté l'hippocampe et le cortex pendant le sommeil, je le répète, eh bien le lendemain, les rats se souvenaient parfaitement.
Sauf que, est-ce que, Michael Zugaro, on peut vraiment transposer la mémoire et les souvenirs des rats à celle des êtres humains ?
Tout à fait. Tout à fait. Alors, on sait qu'un grand nombre de choses qu'on a observées, c'est-à-dire par exemple les rythmes du sommeil dont je vous ai parlé, le rôle de l'hippocampe, du cortex, sont les mêmes chez l'homme. Mais il n'y avait pas encore de preuves directes. Alors, la différence qu'on peut peut-être observer entre le rat et l'homme, c'est la complexité des tâches qui sont peut-être dévolues à l'hippocampe. Mmh. Ce qui est certain, ce sur quoi tout le monde s'accorde, c'est que l'hippocampe chez l'animal joue un rôle dans la mémoire spatiale. C'est également le cas chez l'homme. Mais chez l'homme, il y a également un rôle dans ce qu'on appelle la mémoire déclarative, qui comprend la mémoire des souvenirs personnels, par exemple, mémoire dite épisodique, ou la mémoire des faits d'ordre général, par exemple les dates historiques, ce qu'on appelle mémoire sémantique. Est-ce que ces mêmes types de mémoire existent également chez l'animal, et est-ce que l'hippocampe joue ce même rôle ? C'est ça qui fait encore débat.
François Tinguely, vous avez une question, une réaction sur la mémoire des rats ?
Non, mais un petit délire qui est... et donc ça va soigner, on va endormir les malades d'Alzheimer ?
Alors, pour ce qui est de l'application de nos techniques chez l'homme, bon, d'abord, je tiens à préciser qu'il s'agit d'un travail de recherche fondamentale, c'est-à-dire pour chercher véritablement à comprendre un mécanisme plus qu'à produire un moyen d'action.
Ouais, il n'y a pas d'application clinique pour l'instant. Ouais.
Il se peut qu'il y ait des applications, mais je pense qu'avant même de les envisager, la première chose qui est impérative, c'est de résoudre les problèmes éthiques éventuels qui peuvent être posés par l'utilisation de ces techniques.
Oui, parce que pour Alzheimer, évidemment, pour Alzheimer, on voit l'intérêt de ce type de manipulation, mais après, on peut justement manipuler tout court la mémoire chez l'humain, ce qui serait beaucoup plus gênant. Alors.
La recherche fondamentale prend toujours des risques.
Ah, hein. Ben ça, c'est sûr.
Oui. Là, on en... oui.
Un autre problème qui se pose pour l'application à l'homme, c'est quand même la mise en place du protocole avec une forme d'intervention dans le cerveau directement du rat. Comment ça se passe?
C'est bien pour ça que je parlais de problèmes éthiques. Si voilà. Nous, là, en l'occurrence, on travaille chez l'animal pour ces raisons et on cherche à comprendre des mécanismes qui se produisent normalement, de façon physiologique. Là, on parle de traiter ou d'améliorer les conditions de patients qui souffrent de troubles neurologiques.
Vous parliez d'un transfert d'informations qui a lieu entre deux régions du cerveau. Est-ce que c'est aussi simple que ça ? C'est une information qui passe d'un endroit à un autre de notre cerveau pendant le sommeil ?
Je pense qu'il vaut mieux parler d'échanges d'informations. Et la nature exacte de ces échanges d'informations est encore inconnue. Et ça fait partie d'ailleurs des perspectives sur lesquelles nous espérons travailler dans les années à venir. Pour mieux comprendre comment se produisent ces échanges d'informations. Alors, l'image du transfert est une image simple et qui est belle, qui est compréhensible, mais qui a ses limites. Il ne s'agit pas d'un transfert comme en informatique, un transfert de fichiers, une copie exacte d'une trace mnésique de l'hippocampe au cortex. C'est évidemment pas du tout aussi simple, comme vous l'avez bien souligné.
Michael Zugaro, si justement on extrapole un petit peu, est-ce qu'on pourrait un jour booster vraiment nos capacités de mémorisation, parce qu'on a bien analysé le mécanisme aujourd'hui. Est-ce qu'à long terme, on serait capable d'intervenir de cette façon-là ou pas ?
C'est très difficile de spéculer sur ce qu'on va faire à long terme, évidemment. Rien n'indique que ce soit impossible. Je ne sais pas si c'est tout à fait souhaitable. Et ça, ce sont des questions qui ne relèvent pas uniquement de la recherche fondamentale, mais de choix de société.
On voit toute la prudence dans vos propos. Axel, pour terminer.
Une petite question, est-ce qu'on n'aurait pas un petit problème de capacité de stockage si on était capable de booster notre mémoire ?
Ah oui, mettre trop de mémoire du coup dans le cerveau.
Et il faudrait effectivement d'abord être capable de le faire de manière très sélective, parce qu'on ne veut pas tout retenir. Il y a, comme vous le savez, un très grand nombre d'événements qui nous arrivent tous les jours et on n'est pas en mesure, ça n'est pas non plus souhaitable, qu'on retienne tout ce qui nous arrive. Donc il y a effectivement un problème à la fois de capacité de stockage, mais également de sélectivité de ce qu'on veut retenir.
Ouais, vous proposez un cerveau externe, François Tinguely, une petite poche.
J'avais quand même une question, parce que je suis chercheur. Vous dites la recherche fondamentale, je sais ce que c'est. Mais pourquoi ça vous intéresse, la mémoire chez les rats ?
C'est un modèle de la mémoire chez l'homme également.
Donc c'est bien qu'il y a bien la pensée de l'homme derrière. Donc c'est vous-même qui le dites.
En partie, oui, mais de toute façon,
il faut l'assumer.
Mais il n'y a aucun problème avec ça. Ce que je disais moi, c'est que ce qui nous intéresse, ce qui nous motive, c'est de comprendre comment ça fonctionne. C'est ce que, si vous voulez, Bertrand Russell appelait la science contemplative.
Eh bien, merci beaucoup en tout cas, Michel Zoreux. Mais vous inquiétez pas, François de Saint-Guy est très jaloux justement de vos recherches. C'est pour ça qu'il réagit comme ça cet
dans
après-midi.
Dans la contemplation. Mais...
merci en tout cas, Michel Zougaro. Merci Axel.
Merci
à demain
Mathieu.
Pour
à
une
demain.
Nouvelle Une de la Science. Allez, la Maison Blanche a annoncé le lancement d'un programme de recherche sur les microbiotes financé à hauteur $500 million. Projet qui consiste à mieux identifier les bactéries composant le corps humain par l'analyse de leur génome. Et ça permettrait aux scientifiques de manipuler nos virus, nos bactéries et nos champignons pour nous aider à mieux répondre à certains traitements. Une recherche cruciale dans la lutte contre certaines maladies telles que l'obésité, le diabète ou encore le cancer. Des archéologues américains ont repêché des outils, des os d'animaux et une défense de mammouth vieux de 14 500 ans dans les eaux du fleuve Ocilla en Floride. Une découverte importante pour l'histoire du continent car ces restes sont 1500 ans plus âgés que les traces laissées par le peuple Clovis qui est considéré encore aujourd'hui comme le premier à avoir foulé le sol américain. Une découverte qui pourrait confirmer l'existence encore débattue d'un peuple américain bien plus ancien que prévu. Et puis enfin, l'homme n'a cessé d'évoluer au cours du temps et pour comprendre quelles innovations génétiques nous avons adoptées dans un passé récent, des chercheurs de l'université de Stanford en Californie ont étudié l'adaptation génétique des Britanniques au cours des 2000 dernières années. Et pour cela, ils ont suivi les changements dans le génome humain de 3195 personnes. Ils constatent que 2000 ans d'évolution ont rendu les Britanniques plus grands, plus blonds et mieux à même de digérer le lait, technique qui pourrait permettre de comprendre quelles sont les variations génétiques qui contribuent aux réponses immunitaires ou aux maladies auto-immunes.
13th of June, 2010. Whiskey at noon, and an unfamiliar man lying in your bed. Or was it my turning head? Thinking it was you. Your favorite tune played time and again. We flew to the moon and took in the open plain. You said it was time. And then you let the light shine.
Easy Money, la voix de Karenan sur France Inter. Vous êtes dans la tête au carré.
Je sais que tu me trompes. Avec Chloé.
Hein? Quoi? Non,
William. Inutile d'essayer de nier l'évidence, d'accord?
Je demande un temps mort. T'es sérieuse, là? Tu crois que je te trompe avec Chloé? Mais d'où tu sors ça? Je te jure que
ça fait deux semaines que tu t'absentes mystérieusement, que tu reçois d'étranges appels, que tu rentres tard et que tu me sers des excuses bidons pour expliquer tout ça. Et cerise sur le gâteau, je t'ai vu avec elle. Je vous ai vu tout à l'heure tous les deux au restaurant et vous aviez l'air tellement proches.
Tu as interprété ce que tu
non,
as vu.
Non, c'était on ne peut plus clair. Ça sautait aux yeux.
Kevin et Chloé ont des problèmes de couple. Elle voulait me parler de Cordélia. Elle avait besoin d'une épaule sur laquelle pleurer.
Vous
voilà
avez
tout.
Un passé en commun, elle et toi, sans oublier un enfant.
Mais à cette époque-là, je passais mon temps à boire, ça n'est plus le cas, et à présent je suis amoureux de toi. C'est toi que j'aime et que j'ai épousé, Victoria. Je crois que tu es chamboulée parce que tu essaies de tomber enceinte. Tes hormones tournent à plein régime.
Non, stop! Ne prends pas ça comme excuse, je te l'interdis. Je te connais, je sais que tu me trompes, et si c'est pas avec Chloé, alors c'est avec une autre. Je te prierai donc d'arrêter de me prendre pour une idiote, de te comporter en homme et d'assumer tes actes.
Dans ce cas...
La tête au carré, les mercredis psy et philo, avec Mathieu Vidard sur France Inter.
Et quoi de mieux qu'un extrait des Feux de l'amour pour illustrer notre dossier consacré à la jalousie cet après-midi pour en comprendre les ressorts et pourquoi pas en sortir. Je suis avec Bernard Gébérovitch et François de Singly. Bernard Gébérovitch, vous êtes psychiatre et thérapeute de couple et vous publiez « J'arrête d'être jaloux, jalouse hein, 21 jours pour apprendre à faire confiance à l'autre ». C'est aux éditions Erol. Et puis François de Singly, vous êtes sociologue, spécialiste du couple et de la famille, professeur à Paris Descartes et vous avez publié entre autres « Séparé », c'était chez Armand Collin, et puis également chez ce même éditeur ressort le soi, le couple et la famille, avec déjà les messages et les questions, témoignages des auditeurs sur le site de la Tête au Carré. Juste une petite parenthèse, François de Singly, sur l'aspect sociologie, parce que vous disiez tout à l'heure, la sociologie, c'est pas du tout intéressé à la jalousie. Et vous qui côtoyez des couples en permanence, vous n'entendez jamais parler de ça. Mais de quoi ils vous parlent ?
Ils prennent, je pense, en partie quand même les langages des gens qui les interrogent, à mon avis. Il y en a qui savent très bien parler, par exemple les psychanalystes, au bout d'un certain, ils apprennent le vocabulaire, quand on les revoit après, il faut qu'ils apprennent un autre vocabulaire. Non, par exemple dans Femmes c'est pareil, il y avait des histoires de tromperies, etc. Les mots qui viennent humilié, j'ai perdu ma dignité, je dis pas que ce soit positif. Mais là, je vois très très bien un très long interview où elle découvre, en fin de compte, qu'il y en a même trois, etc. et tout. Et c'est aussi une atteinte à soi-même. Hein, donc je ne dis pas que ça ne pourrait pas être appelé jalousie. Mais sans doute, c'est pas propre à mes travaux.
Ouais, hein, la sociologie ne s'y intéresse pas alors ?
Mais parce que la sociologie a aussi des mots. Alors de temps en temps, par exemple, la sociologie peut emprunter. Juste un tout petit exemple, il y a, mettons, 30 ans, quand j'étais sociologue, le mot souffrance était un mot pour les psys. Et jamais pour les sociologues. Mmh. Et puis Bourdieu un jour a fait la souffrance au travail et tout. Maintenant, c'est devenu un vocabulaire de la sociologie. Très honnêtement, je n'ai pas un seul article de sociologie, ouais, même anglo-saxonne, sur la jalousie.
Ça, c'est étonnant. Enfin, je.
Mais on a comme ça des. Non, je pense que les. Une partie. Ben, regardez sur l'anorexie. Hein. J'ai eu la chance de diriger une thèse sur l'anorexie en sociologie. C'était presque un scandale, parce que et d'ailleurs des psychiatres, je m'en excuse, ouais, se sont insurgés parce qu'on leur prenait.
Donc il y a des terrains sur lesquels il vaut mieux pas, voilà,
oui,
s'aventurer.
Oui, d'une certaine façon. Mmh. Et donc c'est très bien justement les émissions qui nous permettent
de vous rencontrer,
de nous rencontrer.
Et c'est peut-être la naissance d'un futur travail pour vous, en tout cas sur cette question, François de Singly. Bernard Gébérovitch, les couples que vous recevez vous en tant que psychiatre viennent souvent consulter pour des problèmes relationnels liés à la jalousie ?
Alors, pas au premier plan, rarement au premier plan.
C'est vrai.
Ce dont parlait François de Singly,
hein, même dans les cas pathologiques,
c'est de la jalousie à propos d'un adultère. Donc là, on est dans une situation un peu particulière. Mais elle vient rapidement, la jalousie, elle est souvent au deuxième plan. Mais ça n'est pas la cause officielle, la cause primaire de consultation, mais elle peut venir très vite.
Votre livre, vous l'avez écrit pour ceux qui veulent se soigner et qui, justement, un jour, ont franchi la ligne blanche.
Je l'ai écrit pour eux et pour leurs conjoints aussi, puisque moi je reçois beaucoup de couples. Et la souffrance dont vous parlez, elle est à la fois celle du jaloux, mais aussi évidemment celle de la personne qui est sans cesse suspectée de jalousie. Mmh. Donc il y a une souffrance partagée et le couple à un moment est réduit à cette violence qu'on se fait l'un à l'autre, et c'est très très troublant.
Donc c'est plutôt un ouvrage qui s'adresse quand même à ceux qui vivent une jalousie pathologique.
Ah oui, une jalousie excessive, on va dire. Voilà, si on est psychiatre, la jalousie pathologique, c'est la jalousie délirante. Là, on en passe un peu dans un autre registre. Mais en tout cas, une jalousie excessive, celle qui va envahir la personne jalouse et aussi envahir la relation.
Oui, alors effectivement, la jalousie peut être totalement normale. Elle est même banale, hein, souvent, lorsqu'elle s'installe d'une façon relativement courante. Et puis, donc, différents degrés. Et c'est ces degrés-là que vous décrivez. Hein.
Absolument. Oui, normal, je ferai comme François de Senglis, je ne sais pas très bien ce que veut dire normal, mais en tout cas, elle est courante. Beaucoup de gens, d'ailleurs, disent aussi, est-ce que si en absence de jalousie, est-ce que la jalousie est une preuve d'amour ? Et je ne pense pas du tout, moi, que la jalousie soit une preuve d'amour. En tout cas, seule, il y a bien d'autres preuves d'amour qui sont beaucoup plus partageables et agréables que celle-là.
Ouais.
Mais c'est une émotion, un sentiment qui est assez courant, oui.
Et François de Senglis ?
Non, mais c'est pas du coq à l'âne, parce que je sais pas qui serait l'âne, mais ce que je voulais dire, c'est que en essayant de réfléchir, quand je l'entends, que je l'ai entendu dans les entretiens, moi je l'ai entendu dans les entretiens sur, alors là, très fréquemment, sur frères et sœurs. Ouais. Alors ça, frères et sœurs, c'est tout le temps.
Ouais.
Et là, explicitement, d'une certaine façon. Et donc, c'était une de mes questions par rapport à ça. Est-ce que vous, en tant que psychiatre, pour vous, la jalousie frères-sœurs, la jalousie conjugale, c'est deux choses différentes ou il y a quand même des choses qui sont très proches ? Le même mot, entre guillemets ?
Bien sûr, il y a des choses qui sont très proches. Pour répondre à la question de la personne qui présentait les infos, l'envie, c'est l'envie d'avoir quelque chose qu'on n'a pas, et la jalousie, c'est la peur de perdre. Dans la jalousie frères-sœurs, évidemment, on a peur de perdre un statut supposé, de préférer. Il y a un tiers dans la jalousie entre frères et sœurs. Je trouve que la jalousie entre frères et sœurs, elle est souvent très induite par les parents, parce que c'est quand même le sentiment le pire. Quand on a des enfants, au deuxième, on se dit, surtout, j'espère qu'ils vont pas être jaloux l'un de l'autre, surtout, il faut pas qu'ils soient jaloux. Et cette interdiction d'être jaloux, évidemment, peut induire assez souvent ce sentiment qui est très pointé. Et d'ailleurs, beaucoup de gens jaloux que je rencontre ont été étiquetés jaloux dès l'enfance. Et arrête d'être jaloux, sois pas jaloux, prête-ci, enfin.
Ouais.
Mais la jalousie, elle est aussi au travail. Elle est pour tout ce qui vient prendre une place jugée excessive pour l'autre. Ça peut être le meilleur ami, ça peut être évidemment l'ex, ça peut être les enfants qu'on a eus d'un premier mariage. Ça peut être le jogging, l'alcool, enfin plein de choses qui sont...
L'alcool,
on... Ah oui, on peut être jaloux des addictions de l'autre, évidemment. C'est-à-dire, quand une personne est alcoolique, l'autre trouve que l'alcool passe avant.
Il prend trop de place.
Prend trop de place et du coup, à la priorité.
Vous répondez donc à la question de Larry qui nous disait, est-ce qu'on ne réduit pas trop souvent en psy la jalousie à la jalousie amoureuse ? Eh bien non, vous l'avez expliqué à l'instant. Autre question de François, avec l'hyper-individualisme qui s'annonce, la jalousie ne finira-t-elle pas par être perçue comme une qualité, au fond ? Qu'est-ce que vous en pensez ? François de Senglis, oui.
Oui, non mais la question est de...
Avec l'hyper-individualisme qui s'annonce aujourd'hui, est-ce que finalement être qualifié de jaloux, ce ne sera pas
vécu
comme étant une qualité ?
Parce que d'une certaine façon, justement, je pense officiellement, c'est un des problèmes entre l'amour et l'individualisme, c'est que je dois respecter l'autre en tant que tel, il doit rester maître de lui-même, et donc avoir peur de perdre, c'est quand même aussi l'expression du comme envier, c'est quand même en partie ma propriété. Il y a quand quelque chose dans le rapport un peu de possession, à mon avis, qui est donc ambigu. Et je pense qu'historiquement, plus il y a eu justement ce développement de l'individualisme, plus la jalousie est devenue, elle existe, mais elle n'est pas quand même... C'est rare, je pense, peut-être chez les sociologues, mais aussi dans la vie ordinaire. Je connais quand même peu de gens qui me disent, enfin, des amis qui me disent d'abord, je suis jaloux. C'est quelque chose qui n'est pas si avouable.
Oui, alors pourquoi c'est difficile, justement, de le dire explicitement et à son partenaire en particulier, Bernard Jevorovitch ?
D'abord parce qu'il faut effectivement le reconnaître ou l'avouer. C'est une passion inavouable, comme l'a titré une sociologue qui a écrit également un livre, je crois qu'elle est sociologue. C'est une passion honteuse, c'est-à-dire que...
C'est une faiblesse inavouable, au fond ?
Oui, c'est difficile, parce que dans la jalousie, il y a effectivement une effraction de l'intimité de l'autre, Alors aujourd'hui, c'est j'ai regardé ton téléphone, j'ai regardé tes SMS, je vais me débrouiller pour mettre un logiciel pour pouvoir géolocaliser ton portable. Enfin, il y a des tas de... Là, c'est sans fin maintenant, les possibilités de développer la surveillance de l'autre. Et évidemment, il y a une effraction de l'intimité qui est très difficile à reconnaître et à avouer. Et c'est très, très honteux de se comporter comme ça. Et d'ailleurs, il y a une lutte intérieure souvent chez les jaloux qui les angoisse beaucoup.
Écoutons Gisèle Halimi au sujet de la jalousie de Simone de Beauvoir. Écoutez.
Moi, je dois dire que de découvrir que Simone de Beauvoir était jalouse, je vais le dire comme ça, tant pis, ça m'a fait un plaisir fou.
Orpheline,
ça m'a fait un plaisir fou parce que je me dis, mais elle peut être jalouse, donc, alors que moi je m'interdisais au nom de la liberté de l'autre, de la raison, de l'intelligence, quoi. Et je me suis rendu compte qu'il y avait au fond deux démarches qui ne coïncidaient pas toujours et quelquefois étaient parallèles et qu'on pouvait avoir très mal, mais qu'on devait supporter, surmonter ça, non pas seulement au nom de l'intelligence seulement, mais au nom d'une chose plus importante qui était de rester ensemble.
Voilà, François de Saint-Gly, la jalousie de Simone de Beauvoir qui étonne Gisèle Halimi.
Qui renvoie justement quand même là aussi à une des caractéristiques de la relation conjugale occidentale, au moins, qui est celle quand même de l'exclusivité. C'est-à-dire quand même, tout le monde dit, il y a eu 68 et tout, quand on fait une liste des qualités du conjoint dans les sondages, et je déclare que ça coûte rien de mettre ce qu'on veut d'abord, on met pas de savoir si l'autre va aider à la vaisselle et tout, c'est toujours en un la fidélité. Or, je pense qu'il y a quand même un lien entre fidélité et jalousie à ce niveau-là. Me semble-t-il, non ?
Bernard Gébérovitch ?
Oui, bien sûr, il y a un lien, mais là, ce qui est effectivement intéressant, c'est de voir que même deux personnes qui ont un contrat supposé d'une certaine liberté,
c'est
pas si facile à vivre, ouais. Mais de toute façon, un de ses premiers livres, L'Invité, il finit pas bien, hein, quand même, ça finit quand même par un crime, et donc, effectivement, la jalousie, même dès les premiers écrits de Simone de Beauvoir perce dans les romans, en tout cas.
Même dans les couples les plus ouverts. Allez, on se retrouve dans un instant pour poursuivre notre discussion avec beaucoup de messages et de témoignages des auditeurs.
Je ne sais plus vraiment qui je suis. J'ai croisé sur la route un avant-goût de paradis. Mais je vois tomber des gouttes même sous mon parapluie. They break me out. Je ne sais plus vraiment qui tu es.
en léger différé. Mickey 3D.
Ah voilà. Tu l'as vu retourner la pomponnette? Dis, garce, salope, ordure. C'est maintenant que tu reviens, hein? Et le pauvre pompon, dit, il s'est fait un mauvais sang de peste depuis hier. Il tournait, il virait, il te cherchait dans tous les coins. Il était malheureux comme les pierres. Et elle, pendant ce temps-là, elle avait suivi son chat de gouttière. Un inconnu, un bon à rien, un passant du clair de lune. Qu'est-ce qu'il a de plus que lui?
Tiens. Regarde là, hein. Elle a eu l'assiette de lait du pauvre pompon. C'est pour ça qu'elle est retournée. Il avait faim et froid. Bois le lait de pompon, hein. Ça lui fait plaisir. Dis, est-ce que tu repartiras encore?
Elle ne repartira plus.
Parce que si tu avais envie de repartir, il vaudrait mieux repartir tout de suite. Ça serait moins cruel.
Non. Elle ne repartira plus. Plus jamais.
Voilà le pauvre pompon dans La femme du boulanger pour parler de la jalousie cet après-midi avec Bernard Gébérovitch et ce livre J'arrête d'être jaloux aux éditions Erol et puis François de Singly, sociologue avec nous également. Alors beaucoup de messages des auditeurs. Il y a Ludovic qui nous dit ceci. Vous dites que la jalousie c'est la peur de perdre. Mais alors quid de la jalousie du passé de l'autre? Est-ce que c'est lié au manque de contrôle sur l'autre ou bien une méfiance sur des faits dont on ne peut vérifier la véracité? C'est vrai qu'on peut être jaloux du passé de l'autre aussi, oui.
On peut de plus en plus être jaloux au passé de l'autre, puisque les couples, aujourd'hui, il y a plusieurs couples dans la vie de plein de gens, et ça arrive assez fréquemment, et c'est assez difficile à...
Ça paraît irrationnel, même presque.
Ça paraît très irrationnel, et je pense que les gens s'en rendent compte. Après, il y a évidemment des interactions spécifiques qui font qu'il y en a un qui ne rassure pas l'autre, effectivement. C'est la place du passé de l'autre, ça peut être... jaloux aussi de ce que l'autre a pu faire, et puisqu'il a pu le faire, il va être capable de le faire. Cette histoire de jaloux du passé de l'autre vient fréquemment quand les gens se sont rencontrés, et justement ça a commencé par un adultère. Mm-hmm. Du coup ça crée un précédent. S'il a été capable de tromper sa femme pour venir vivre avec moi, il sera peut-être capable de me tromper pour recommencer. Il y a différentes situations, mais cet envahissement du passé de l'autre, des enfants de l'autre, ou de tout ce qui a pris une place très importante dans la vie de l'autre, c'est très fréquent. C'est...
Oui. François Singly, dans ce livre séparé là, que vous aviez publié chez Armand Collin, justement, parmi les raisons possibles de séparation dans un couple, la jalousie n'apparaissait jamais comme argument massif?
Non, mais je pense que c'est pas forcément... c'est pas forcément grave. Par exemple, une des choses qui sort de La femme du boulanger aussi, c'était a suivi un bon à rien. Et donc ici, quand même, dans les termes dans lesquels les gens parlent à un sociologue, il y avait beaucoup de choses sur le sentiment justement d'être défiguré. Normalement, la logique de l'autre, c'est je suis aussi reconnu et tout. Et alors, il admettons, ou elle, suit quelqu'un d'autre qui est moins bien que moi, donc en fin de compte, moi, je suis encore moins qu'eux. Et donc ici, il y a vraiment... Et donc c'est plutôt ça qui était dans les entretiens, sur le fait de la difficulté de se reconstruire après avoir eu... Moi, je dis défiguration. Oui, une forme de défiguration, le fait d'être nié.
Ouais. Alors, ça peut entraîner la séparation ou pas?
Ah oui, non, là, très très fortement. Le chez les femmes, hein, c'est bien séparé avec
c'était un
E.
C'était séparé au féminin.
Au féminin, ça c'est une des questions qu'on va poser, bien entendu, ensuite. Mais du point de vue des femmes, le sentiment d'être défiguré par le comportement de l'autre, nié, mal reconnu, est tout à fait central. Et donc oui, est-ce que les hommes et les femmes sont jaloux pareil?
Erwan, Twitter, pose la même question que vous, François de Singly.
Ah oui, ben j'ai changé de prénom.
Jaloux pareil, sans doute pas, mais la jalousie existe dans les deux sexes. Elle ne s'exprime pas de la même façon. Rému disait qu'est-ce qu'il a aussi de plus que moi, pas seulement le bon à rien, mais aussi qu'est-ce qu'il a de plus que moi. Il est dans les deux.
Cette tension.
Il est dans la tension de la perte de confiance en lui, la perte de confiance en l'autre, et la perte de confiance tout court dans la relation amoureuse.
Il y a ce message de Patricia, justement, elle nous dit le jaloux, la personne jalouse, c'est quelqu'un qui a peur de la comparaison. Il a tellement peur d'être moins bien qu'il cherche à faire le vide autour de son conjoint et de sa conjointe pour être le seul objet d'admiration, le seul objet de référence. C'est une attitude maladive qui fait d'énormes dégâts dans une relation.
Je ne peux qu'approuver ce qui est dit. C'est vrai que quand on réfléchit à quel est le passage de la jalousie, entre guillemets, normale, comme vous avez dit tout à l'heure, à la jalousie excessive, cette question de la surveillance étroite, de la nécessité de restreindre les contacts de l'autre et la dévalorisation...
Ça, c'est les grands signes qui se manifestent.
Voilà ce que Rému dit quand il commence à insulter...
Pomponette.
Pomponette, merci, parce que je ne sais plus le nom de la comédienne. Mais il y a aussi la dévalorisation de l'autre avec les insultes, la colère qui s'exprime. Et la restriction des contacts est effectivement un signe qui traduit le passage de la ligne jaune, je crois.
Oui, absolument.
Ce qui est intéressant, c'est que justement dans l'existence ordinaire et dans nos sociétés, on est sans doute de plus en plus dans des logiques de compétition. Et donc, d'une certaine façon, l'attraction de la vie privée, c'est d'être à côté, hors comparaison. Oui. La jalousie, par principe, réintroduit la logique de la comparaison, d'une certaine façon. D'où le fait que ça soit invivable, parce que franchement, à ce moment-là, c'est plus vraiment la peine.
Et c'était Ginette Leclerc, Pomponette, dans la famille du boulanger.
Effectivement.
Alors justement, la jalousie excessive, celle qui vous intéresse au premier chef, Bernard Gébérovitch, vous dites qu'il n'y a pas de rival, il n'y a pas de raison objective d'être jaloux dans ces cas-là. C'est-à-dire que c'est fondé sur quoi au
fond? Il y a un rival imaginaire, les feux de l'amour, il y avait un rival. Il y a un ou une rivale imaginaire, fantasmée, qui est réelle ou pas. Il y a toujours un tiers dans la jalousie, et ça c'est quelque chose d'important. Mais si le rival est imaginé, on demande à l'autre de nous rassurer et rien ne vient rassurer. C'est-à-dire, ce qui est délétère, c'est que du coup, on arrive à une relation qui est la justification de la justification.
À l'épuisement.
Et l'épuisement. Et puis, de toute façon, comme la confiance n'est plus là, rien n'y fait. Et vous parliez du contrôle tout à l'heure. Je trouve qu'il y a une phrase, moi, que je trouve très importante. C'est que la confiance, c'est pas avoir le contrôle sur l'autre. Et dans les couples que je reçois, assez souvent, les deux notions sont confondues. Et l'un des deux tient absolument à tout contrôler de ce qui se passe pour l'autre. Et là, il n'y a plus de confiance. Il y a une relation qui devient très asymétrique et dévalorisante.
Laurent nous dit « J'ai vécu qu'une femme jalouse et elle me rendait jaloux. Le jour où j'ai cessé d'être jaloux, eh bien, elle m'a quitté subitement. » C'est un peu pervers, non ?
C'est un peu pervers. Il y a une dimension, pardonnez-moi le terme, il y a une dimension addictive dans la jalousie. Ouais. On est grisé par la jalousie.
Il y a un masochisme.
Il y a une sorte d'excitation et de masochisme, souvent, dans cette... Quand on est entièrement envahi par ça, quand ça occupe toute la journée, de se dire qu'est-ce qu'elle est en train de faire, où il est, avec qui, il parle de quoi, enfin tout ça, ça envahit. Il y a une sorte d'excitation maladive et addictive et perverse. Donc c'est vrai que le sevrage brutal, parfois, amène des remaniements difficiles.
En tout cas, certains règlent
c'est peut-être une chance pour lui,
problème de façon radicale, comme on va l'entendre dans cet extrait de Machete Kills.
C'est qui cette meuf ?
C'est mon contact.
Tu te l'es faite ? Ouais.
Y a un problème ?
Ouais, ça m'emmerde carrément. Si tu pues la pétasse, c'est parce qu'une pétasse t'est montée dessus. Et quand une pétasse te monte dessus, tu sais plus où t'habites.
Fais pas ta jalouse.
C'est elle ? Putain, tu fais chier.
Où tu vas ?
À ton rendez-vous. Ta jolie blonde, je la sentais pas trop. Mais là, ça pue la morue avariée. Tito, Osiris. À nous de jouer.
Voilà, film de James Rodriguez et elle s'en va avec des panthères. Hein. C'est pas des petits caniches qu'elle a au bout de sa laisse, mais deux panthères pour aller régler ses comptes. Françoise nous dit ceci, je pense qu'une personne tout à fait saine d'esprit peut devenir complètement dingue, voire dangereuse par jalousie amoureuse. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce dédoublement de personnalité dans certains cas ?
Dédoublement de personnalité, ça, je sais pas si on peut dire ça, mais dans la jalousie, il y a une anxiété, il y a une colère... et il y a la peur d'être abandonné. Donc, quand on laisse la colère s'exprimer d'une façon excessive, effectivement, il peut y avoir un danger. Tout le travail sur comment soigner la jalousie, ça va être de contrôler cette montée d'anxiété, d'émotion qui se traduit par une colère. Là, elle est doublée, la colère, par la dame dans Machette.
C'est ça.
Mais on voit comment elle peut monter toute seule. Ouais.
La peur d'être abandonnée. On a beaucoup parlé de la théorie de l'attachement dans cette même émission il y a 15 jours, 3 semaines. On voit bien les répercussions justement de l'enfant jusqu'à la vie de couple. François de Singly.
Oui, justement, là, par rapport à ça, c'est une question un psychologue, un psychanalyste, mais qui est-ce que quand même, vraiment, quand vous les écoutez longuement, vous trouvez qu'il y a un lien entre leur premier attachement et le fait d'être jaloux?
Alors
Oui, allez.
Attachement maternel.
Je vais répondre sans nuance. Oui, il y a un lien, mais le lien, on peut le trouver chez beaucoup de gens. Je pense qu'il y a un lien qui a été réactivé souvent par la suite. Ça peut être par une expérience de séparation, une expérience de deuil. Moi, je reçois, alors je fais aussi du coq à l'âne, je reçois beaucoup de gens en ce moment qui ont du mal avec l'engagement et avec le fait de se lier. Et quand on travaille vraiment là-dessus, ils expliquent que quand on se lie, on prend le risque de la perte. Et on revient sur la peur de l'abandon. C'est-à-dire, finalement, on ne peut être abandonné que quand on a un lien. Si on évite d'en avoir, certes, on vit sans doute moins bien, mais on prend moins de risques. Mais je crois, oui, qu'il y a des expériences de séparation douloureuse dans l'enfance qui sont réactivées par la suite.
Allez, on se retrouve dans un instant pour la dernière partie de notre discussion. Lynn Lovitch avec Lucky Number sur France Inter.
La tête.
Connais-toi toi-même, disait le sage.
Au carré.
La meilleure façon de se connaître est d'abord de connaître son cerveau.
J'étends ma main, je marche, je parle.
Sur France Inter.
Bernard Gébérovitch, psychiatre, et François de Singly, sociologue, sont les invités de La Tête au Carré pour parler de la jalousie cet après-midi. Il y a beaucoup de messages, beaucoup de témoignages. Visiblement, quand même, ça concerne un petit peu les auditeurs, si j'en juste parle l'avalanche de messages. Il y a Karine qui nous dit ceci. Comment ne plus être jaloux après avoir subi l'infidélité? Elle est importante, cette question, parce qu'on disait tout à l'heure, le jaloux, finalement, ne s'appuie sur rien de concret. Or, quand même, dans certains cas... Il y a des preuves et des difficultés à vivre ça, parce que la confiance a été véritablement rompue. Hein.
Oui, oui. La trahison, la confiance rompue sont des... Je crois que c'est difficile, parce que ce que je vais dire, c'est vraiment du côté du conscient, du volontaire. Or, dans la jalousie, il y a des choses qui sont très, très intérieures et du côté des émotions. Mais en tout cas, si les deux partenaires ont décidé... de continuer ensemble, c'est-à-dire de retravailler sur la qualité de leur relation, de recentrer sur cette ce côté on arrose et on nourrit notre relation. Je pense qu'il y a d'abord il y a aussi un préalable qui est quand même quelque chose qui a à voir avec le pardon, qui n'est pas au sens spirituel du terme, mais c'est-à-dire que la personne qui trompe quelqu'un d'autre en général le fait pour se faire plaisir et pas particulièrement pour faire du mal à l'autre, sauf que ça fait du mal à l'autre. Et de reconnaître la souffrance qu'on a induite, c'est déjà un élément important. Et quand cette reconnaissance du préjudice, pour employer des termes juridiques, est acceptée et mise en place, on reconnaît quelque chose et là, on peut commencer petit à petit
à restaurer, au fond,
à
l'amour,
à construire autre chose qui tiendra compte de cette cicatrice, évidemment, de cette blessure.
François de Singly, la jalousie au cœur de la passion. Alors, dans le couple, ça vous intéresse aussi, ça ?
Oui, parce que justement, je pensais à des recherches en ce moment sur les trentenaires. Et en fait, ce qui est frappant, c'est qu'ils veulent justement pas être trop pris.
Par l'amour ?
Oui.
Par l'autre ?
Par la relation, c'est-à-dire. Parce que quand même, l'objectif central, c'est rester soi-même. Et la passion, c'est quand même une forme de dilution, je sais pas comment, un plus un, là. Non, mais il y a quelque chose sur lequel il résistait. Donc, ça, quand même, en tout cas, dans un certain nombre d'enquêtes, ce qu'on voit, c'est que là, je parle sur la première période, il y a une forme de reconnaissance, d'exclusivité et tout. Mais la logique très passionnelle, elle n'est pas forcément si fréquente. Très souvent, on confond amour et passion. À mon avis, c'est pas vraiment vrai. Donc, naturellement, la question, c'est que pour moi, la passion, c'est quelque chose qui vous prend totalement et dont vous êtes pris et rempli de l'autre. Et il me semble, en lisant les choses sur la jalousie, que c'est en partie comparable. Alors, naturellement, c'est négatif. Et donc, ma question est toute bête, c'est est-ce que l'amour trop fort, donc la passion d'une certaine façon, dans la vie conjugale, c'est pas le préalable à éventuellement une expérience aussi de
jalousie.
De jalousie.
Oui, je pense que si le couple, si les deux veulent continuer à avoir en permanence cette relation fusionnelle qu'ils ont pu connaître au début, ils vont sans doute avoir des moments de difficulté. Un humoriste disait, le couple, c'est quand deux personnes décident de ne plus faire qu'une, les difficultés commencent quand il s'agit de savoir lequel. À un moment, il faut bien évoluer. Moi, je trouve que les trentenaires, pour aller dans votre sens, ou un tout petit peu, ils ont ce fantasme qu'il va pouvoir y avoir une intensité permanente. Je trouve qu'ils sont surtout à la recherche de l'intensité, et de l'intensité permanente. Et parfois, la jalousie crée une illusion d'intensité parce que il y a de la vitalité, il y a de la violence, il y a de la force, il y a de l'affect comme ça qui circule, mais c'est assez délétère quand ça prend trop de place.
On va écouter Roger Vadim. Vous allez voir ce qu'il dit à ce sujet est assez joli.
La jalousie, vous connaissez ?
Après Stendhal, c'est dur d'en parler. Imaginez un soldat bien entraîné, mais particulièrement efficace et courageux. Il a peur. Il conçoit cette peur, il l'accepte, et après l'avoir acceptée, il cherche à la neutraliser. Il sait que pour atteindre son objectif, il doit agir comme s'il n'avait pas peur. La jalousie, c'est un peu la même chose. C'est un sentiment violent, à mon sens très souvent mesquin, très égoïste en tout cas, sans doute nécessaire à l'amour, ou disons plutôt que sans amour... La jalousie existerait peu. Elle s'appelle à ce moment-là l'envie. Et je suis comme ce petit soldat idéal, c'est-à-dire que j'essaie dans ma vie de neutraliser la jalousie et de ne pas la laisser me conditionner. Parce que ça rend la vie impossible, parce qu'on a honte de soi-même, parce qu'on emmerde, on a encore le droit de dire ça à la télé, enfin, on emmerde les gens qui vivent autour de vous. Ça ne veut pas dire que je ne sois pas jaloux. Mais pour moi, jalousie connaît pas.
Il y a beaucoup de pudeur dans ce qu'il dit au fond. Il y a beaucoup, Roger Vadim. C'est très joli, c'était en 73.
Beaucoup de pudeur, beaucoup d'ambivalence. Et à la fois, je connais, mais je le dirai pas. Ouais. C'est très honnête.
Hein,
c'est très honnête.
Oui. Mathilde,
ça protège. Il convient de protéger la relation, et c'est important de reconnaître ça.
Mathilde nous envoie ce message. Pourquoi est-ce qu'il est si difficile de se débarrasser de la notion de possession du corps de l'autre? J'aimerais pouvoir dire qu'il ne m'appartient pas du tout comme je ne lui appartiens pas. Cette question du corps aussi dans le couple, évidemment, François de Saint-Guy, elle intervient souvent.
Ça, c'est quelque... Pour moi, ça reste un mystère, hein, d'une certaine façon. Ouais. C'est-à-dire, oui, ça reste un mystère, parce qu'au début, on s'en sortait en disant c'était les normes religieuses ou je sais pas quoi et tout. Bon, une partie de là, si je reprends les trentenaires, je pense à un couple en particulier, la jeune femme, elle n'était pas passionnée absolument et tout, et découvre que son type la trompe, ils sont dans les premiers mois de relation, et rompt à la seconde près et tout. Et donc, je veux dire, elle n'a pas été quand même écrasée comme moi, entre guillemets, par tout ça. Et donc ici, il reste pourquoi la preuve par le corps, ouais. Hein, quand même. Parce que, pour ça que tout à l'heure, on a dit qu'on pouvait tromper par l'alcool, etc. Mais est-ce que c'est quand même totalement équivalent?
Non, c'est pas équivalent. À propos du corps, moi, je vois aussi souvent des gens qui sont très envahis par les images qu'ils se créent de l'autre avec le rival ou avec la rivale. Et c'est très troublant, hein, quand les images sont très sexuelles, de se retrouver dans une sorte de trio avec la dimension, toutes les dimensions qu'il peut y avoir liées à sa propre dimension homosexuelle, etc. Donc ça, c'est assez violent parfois de se retrouver face à quelqu'un du même sexe que soi en train de faire des choses avec son conjoint.
Bernard Gébérovitch, vous avez une minute pour nous dire comment sortir de la jalousie, puisque c'est l'objet de votre livre en 21 jours. Alors, dites-nous
un
peu.
Une minute suffira largement.
Voilà. Alors, la plus belle piste à emprunter.
Non, la plus belle piste, c'est d'abord de la reconnaître. De reconnaître la jalousie, d'accepter, c'est l'étape la plus difficile.
Auprès de soi et auprès de l'autre.
Hein. Auprès de soi, auprès de l'autre, d'arriver, soit à entendre tu es trop jaloux, jalouse, soit de reconnaître je suis trop jaloux, jalouse. Une fois qu'on l'a reconnu, on peut faire ce chemin qui est vers l'acceptation et ensuite le changement, qui consiste à se décentrer de soi, puisqu'on est très centré sur son propre, sur l'amour propre et sur son ego. Et puis de réactiver la relation.
Bon, en tout cas, on a tout votre livre pour le tester, 21 jours pour
ça. Justement, c'est facile, en fin de compte, pour le reconnaître. Si on est jaloux et qu'on n'arrive pas à le dire, on achète le livre, on le laisse traîner. Et à mon avis, il y a quand même...
Un petit message.
Oui, voilà, donc c'est bien.
Merci François de Saint-Guy d'aussi bien vendre le livre de votre ami Bernard Gébérovitch, qui est sorti donc cet ouvrage chez Erol. Et puis François de Saint-Guy, Le Soi, le couple et la famille vient de paraître à nouveau chez Armand Collin, hein, c'est ça. Merci beaucoup à tous les deux.
Merci à vous.
Et merci aux auditeurs, il y a beaucoup de messages, vous pouvez d'ailleurs les consulter en allant sur le site de La Tête au Carré.